Zambia sa Milana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir, selon votre position géographique, c'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine à la présentation. Joséphine Tsimondimana. Ouvrons cette rétrospective par le dossier judiciaire. Le journaliste correspondant de la radio-télévision Isanganiro en province Karoussi a été entendu par la police ce vendredi pour le deuxième jour consécutif. Blaise Pascal Karoumiye a été auditionné par le procureur général de la République dans cette province suite à une plainte déposée par le directeur du bureau provincial de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage. Ce dernier l'accuse d'avoir livré de fausses informations. Selon la radio-télévision Isanganiro, Blaise Pascal Karoumiye a reçu l'ordre de montrer à l'autorité provinciale concernée les informations produites avant la diffusion. Selon l'Union burundaise des journalistes UBJ, contraindre un journaliste à montrer chaque fois l'information produite avant la diffusion et contre l'éthique du métier de journaliste. L'UBJ dénonce par ailleurs le harcèlement que subit son correspondant. Écoutez Alexandre Niyungeko, président de l'UBJ.
L'Union burundaise des journalistes est vraiment très préoccupée par le harcèlement dont fait objet notre confrère Karoumiye, correspondant de la radio Isanganiro dans la province de Karoussi. Nous constatons que les convocations intempestives et surtout ce qu'on lui demande de faire vient fouler aux pieds la loi, notamment la loi sur la presse, mais aussi et surtout la charte mondiale de l'éthique des journalistes qui d'ailleurs a été révisée en juin 2019 à Tunis lors du congrès mondial de la Fédération internationale de journaliste et surtout à son article 11 qui stipule que le journaliste s'interdira de se comporter en auxiliaire de police ou d'autres services de sécurité. Il ne sera tenu de remettre à ses services que des éléments d'information rendus publics dans un média. Or, on demande à ce journaliste de d'abord révéler ce qu'il va publier dans le média avant que ce ne soit publié. Cela ne se fait nullement et c'est une violation de la loi. Et ça ne peut se passer qu'au Burundi, où justement la loi sur la presse, la liberté de la presse est foulée aux pieds, où justement les droits des journalistes ne sont plus respectés.
Au chapitre des droits de l'homme, il n'y a plus d'espoir que le gouvernement du Burundi accepte de coopérer avec le nouveau rapporteur spécial des Nations Unies chargé de surveiller et de rendre compte de la situation des droits humains au Burundi. Dans la séance du 29 juin du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le représentant du Burundi a accusé le Conseil d'ingérence politique dans les affaires internes du Burundi. L'organisation internationale Human Rights Watch trouve que le Burundi n'a pas de volonté d'avancer vers la protection des droits humains dans le pays. On fait le point avec Eddie-Claude Nina Azoué.
Il est difficile de déterminer quels efforts le gouvernement burundais déploie réellement pour lutter contre les violations systémiques des droits humains dans le pays. Dans son communiqué, Human Rights Watch indique que depuis l'arrivée au pouvoir, il y a 2 ans, du président Evariste Ndayishimiye, leurs enquêtes ont mis en évidence les mêmes schémas d'abus que ceux perpétrés sous le régime de Pierre Nkurunziza, son prédécesseur. Clémentine Domaine-Tuoge, chercheuse à la division Afrique dans cette organisation, déplore que le gouvernement burundais reste cramponné sur son refus de coopérer avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi.
C'était la première présentation du nouveau rapporteur spécial. On aurait espéré voir une réaction plus positive de la part des autorités. Après tout, ils avaient entièrement refusé de collaborer avec la commission d'enquête sur le Burundi pendant plusieurs années. Donc ce nouveau mandat présentait une opportunité pour commencer sur de nouvelles bases et permettre un monitoring indépendant de la situation des droits humains au Burundi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Un refus de coopérer qui présente des conséquences pour l'avenir du pays en matière de lutte contre des violations des droits humains. La chercheuse Emmanuel Twatch indique que les efforts de certains médias et associations des droits humains sont toujours limités, selon toujours Clémentine Domaine-Tuoge.
C'est un message préoccupant de la part des autorités, ce refus de permettre un travail de documentation des violations des droits humains indépendants au Burundi. Il y a encore quelques médias, quelques défenseurs des droits de l'homme dans le pays qui cherchent à faire ce travail, mais qui prennent beaucoup de risques. Et tant qu'il n'y a pas un accès pour que des organisations indépendantes ou des mécanismes comme le rapporteur spécial puissent faire ce travail au Burundi, il sera difficile de connaître réellement l'ampleur et la gravité de la situation des droits humains.
Il est temps que les autorités burundaises passent de la parole aux actes en donnant accès au rapporteur spécial, en libérant toutes les personnes injustement emprisonnées, en arrêtant les auteurs de violations de droits humains et en ouvrant des poursuites à leur encontre, a conclu Human Rights Watch dans son communiqué.
Réagissant sur ce dossier, Maître Gustave Niyonzima, activiste des droits de l'homme, estime qu'en refusant de coopérer avec le rapporteur spécial des Nations Unies, le Burundi s'expose aux sanctions de la communauté internationale. Il trouve aberrante l'attitude du gouvernement burundais à ce sujet. On écoute Maître Gustave Niyonzima.
C'est vraiment époustouflant et patibulaire de la part de l'État de rejeter des appels de donner accès au rapporteur spécial des Nations Unies, chargé de surveiller et de rendre compte de la situation des droits humains au Burundi. Ce refus est consécutif à une présentation du rapporteur spécial, d'où certains États avaient exprimé les préoccupations de la situation délétère en matière de droits humains au Burundi, exigeant par conséquent aux autorités burundaises de mener des enquêtes exhaustives et de poursuivre les cas des exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, des emprisonnements arbitraires et illégaux, de tortures et d'autres abus des droits humains. Comme conséquence de telles moroses attitudes de la part de l'État, ce dernier risque de replonger dans des sanctions économiques et de l'isolement de certaines institutions internationales, inter alia l'Union européenne, les Nations unies et certaines autres institutions bancaires. Donc on voit que le pays se la coule douce alors qu'il y a des violations graves des droits de l'homme au Burundi, mais les préposés de l'État ne sont pas du tout inquiétés.
Inzamba. Le traînement qui a marqué cette semaine, c'est cette rafle qui a été organisée dans la capitale économique Bujumbura. 290 personnes vivant de la mendicité ont été arrêtées ce jeudi. Parmi ces personnes, 200 sont des adultes et 90 sont des enfants. Cette campagne de rafle a été organisée par trois ministères, celui de la solidarité, celui de l'intérieur et de la sécurité publique, ainsi que le ministère de la Justice. Félix Nguendabanga, secrétaire permanent au ministère de la Solidarité, a précisé que cette campagne vise l'éradication de la mendicité chez les adultes et les enfants en situation de rue. Les adultes seront traduits en justice puisque les enfants conduits dans leurs familles respectives. Écoutez Maître Nguendabanga.
Nous avons récupéré environ 200 personnes mendiants, donc des personnes adultes, mais également on a récupéré aussi, on a pu saisir environ 90 enfants qui étaient dans les rues, donc qui mendiaient dans les rues. Raison pour laquelle, en associant le ministère de l'Intérieur et de la Justice, il y a déjà pour les personnes adultes qui mendient, il y aura des dossiers qui vont continuer avec les enquêtes qui seront menées par les OPJ, et des dossiers vont continuer au niveau des tribunaux. Mais également pour les enfants, nous avons déjà à notre disposition trois centres qui vont essayer de nous aider pour l'encadrement de ces enfants en attendant l'identification de leur famille. Le message qu'il faut peut-être livrer, c'est que tout ceci découle d'un communiqué qui a été livré par le gouvernement, mais également ce communiqué aussi découle d'une analyse d'un projet qui a été adopté par le gouvernement de retrait de l'insertion des enfants en situation de rue des mendiants adultes. Donc nous sommes dans la droite ligne de la mise en œuvre des recommandations du gouvernement pour qu'au niveau de tout le pays, au niveau de la ville de Bujumbura, il n'y ait plus de mendiants dans les rues.
Ces enfants en situation de rue ont été rassemblés au ministère de la Solidarité pour être conduits vers leur province natale. Certains parents contactés par la radio Inzamba trouvent que cette opération est mal organisée. Ils disent qu'il devrait y avoir des institutions chargées d'accueillir ces enfants. Sinon, ils vont finir par revenir en ville. Écoutez-le.
Normalement, dans le passé, nous avons vu que ces enfants se réintègrent dans leur société, mais ils retournent dans les rues en abondance. Et nous suggérons au gouvernement d'abord de préparer ce travail aussi important. Il fallait d'abord construire des centres de l'éducation, et puis ces enfants, après qu'ils soient encadrés et puis rééduqués, de façon qu'ils restent dans leur ménage ou dans leur commune. En plus de cela, le gouvernement doit préparer des budgets afin que ces enfants soient dotés de capitaux afin qu'ils se réintègrent dans la vie courante.
Le chef de colline doit être obligé de fixer les yeux sur ses parents et même les enfants pour chaque jour Le chef de colline a visité les enfants pour voir est-ce que les enfants vont à l'école. Le gouvernement ou les administratifs de son province, notamment les coroners, pour fixer les dix enfants.
Certains d'entre eux sont des orphelins des parents, sont issus dans les familles modestes. Il y a même qui ne connaissent pas leurs parents. Ils viennent s'installer pour commander, pour chercher à vivre. Certains d'entre eux sont...
Avant de clore cette rétrospective de l'actualité, parlons de la diaspora burundaise qui est estimée aujourd'hui à 321 000 Burundais, c'est-à-dire 3% de toute la population burundaise. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'association partenaire pour la paix et la prospérité rendu public en ce mois de juillet. Selon ce rapport, le Burundi gagne environ 45 millions de dollars américains grâce aux transferts effectués chaque année par la diaspora. Il gagnerait plus s'il écartait certains défis selon le même rapport. Georges Némène.
Parmi ces défis, comme l'indique le rapport, figure la politisation de la diaspora, un frein à la mobilisation pour le développement. Des hauts responsables burundais ont pendant longtemps méfié la diaspora, à la considérant comme des opposants politiques au régime et que rien de bon ne peut venir d'eux. Le deuxième défi est le fait que la diaspora est écartée dans la prise de décisions politiques et économiques. Au Burundi, la reconnaissance du rôle de la diaspora n'est pas définie. Les conférences organisées annuellement sont axées sur les programmes du gouvernement et des partis au pouvoir. La majorité des participants n'apporte pas un regard critique aux stratégies mises en place. Un autre défi est celui de la mauvaise gouvernance financière. Avec les 321 000 Burundais de la diaspora, le Burundi pourrait facilement gagner environ 591 millions de dollars américains par an au lieu de 45,6 millions de dollars qu'il encaisse actuellement. Les 591 millions de dollars équivalent à peu près à l'aide au développement que le Burundi reçoit de ses partenaires, estimé à 600 millions de dollars américains en 2017. Aussi, ajoute le rapport, il faut considérer la diaspora comme un partenaire pour l'investissement privé, un partenaire technique et le meilleur délégué commercial et culturel. L'organisation Partenaire pour la paix et la prospérité dénombre actuellement 32 000 Burundais de la diaspora hautement qualifiés avec des diplômes universitaires qui pourraient apporter un plus-value dans le développement du Burundi.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un bon dimanche chez vous. À la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.